RMC, entre les poteaux,
Nicolas Paolorsi.
Salut à tous, entre les poteaux, spéciale Coupe du Monde, ravi d'être avec vous comme tous les jours. On vous remercie parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous partagez le podcast dans tous les sens, vous mettez des notes et ça c'est vraiment génial. On est ravi de vous retrouver chaque jour pour parler de la Coupe du Monde. Notre 15 de France ne joue pas ce week-end et donc on va en profiter pour vous présenter la révélation de cette Coupe du Monde, le Portugal. Le Portugal qui a embêté les Gallois, ils ont même décroché le premier match nul de leur histoire contre la Géorgie après avoir frôlé cette victoire. Bref, on va vous présenter cette nation qu'on connaît bien dans le milieu du football, beaucoup moins dans le rugby. Toutes les petites histoires du rugby portugais, c'est dans Entre les poteaux. C'est parti. On accueille notre Jean-Paul Olivier de l'Ovalie, à nous. voilà, c'est quasiment le même profil. Pierre Amiche est notre poteau du jour. Salut Pierrot.
À 60 ans près. Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Pierrot, avec toi, on va revenir un petit peu sur le parcours des Lobos. C'est le surnom, les loups hein, en français, c'est le surnom de cette équipe du Portugal. Déjà, raconte-nous un peu l'identité de cette sélection, parce que c'est vrai que quand on pense sport et Portugal, bien évidemment, on pense à Cristiano Ronaldo, on pense au foot, mais on ne les imagine pas du tout avec un ballon de rugby dans les mains, les Portugais.
Et pourtant, ça remonte aux années 1900 à l'origine. Ce sont des marchands français et anglais qui mettent en place des petites équipes de quartier. Et puis finalement, le rugby va prendre petit à petit. Ça va pas être vraiment un engouement fou. Mais ça va persister jusqu'au début des années 30, milieu des années 30. Et c'est en 1935, le 13 avril 1935 pour être précis, que le Portugal va disputer son premier match officiel. Donc ça remonte finalement. Ils vont perdre face aux voisins espagnols et c'est une mauvaise habitude qui va perdurer jusque dans les années 60, puisqu'en gros, pendant quasiment 30 ans, le Portugal ne va affronter que l'Espagne et va perdre quasiment à chaque fois. Et il va falloir attendre les années 60 pour que réellement le Portugal s'inscrive sur l'échiquier mondial et commencer à s'exporter un petit peu. En 67, il joue contre l'Italie, la Roumanie. Et ça va créer, cette fois, un véritable appel d'air et une volonté de consolider le rugby portugais. Même si c'est vrai, dans ce pays-là, eh bien, la plupart des sports évoluent à l'ombre du football roi. D'ailleurs, aujourd'hui, le Portugal n'a pas d'équipe de basket majeure, n'a quasiment plus de sport mécanique, mis à part un coureur en MotoGP, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Et puis, la plupart des sports s'éteignent tranquillement, malheureusement, à l'ombre du roi foot. La sélection des Lobos va connaître deux points d'orgue. Le premier, c'est dans les années 80. Ouais. Puisque cette équipe-là va réussir à s'imposer et malheureusement va rester à la porte de la Coupe du Monde 87 puisqu'on n'invitait que les 16 meilleures équipes. Et puis 2007, là c'est la révélation.
Faut que tu nous parles de cette génération 2007, Pierrot, où c'est vraiment, alors, pour le grand public, l'avènement du rugby portugais, ça se passe en 2007.
Ah bah oui, totalement, parce que c'est la première fois que le Portugal va se qualifier pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde en France, qui plus est, parce qu'on sait qu'il y a une diaspora portugaise importante chez nous. Et donc, il y a un véritable engouement, une passion qui se déchaîne, en dépit des défaites, parce que le Portugal va connaître deux défaites importantes, la première face à l'Écosse, 56-10, et une face à la Nouvelle-Zélande, qui restera malheureusement mémorable pour eux, 108-13. Il faut rappeler que le Portugal va s'enorgueillir de deux choses. La première, c'est d'avoir marqué lors des quatre matchs de Coupe du Monde, Écosse, Nouvelle-Zélande, Italie, Roumanie. Et la deuxième, c'est d'avoir accroché la Roumanie 14-10, d'avoir été aux portes de l'exploit et d'avoir dû s'incliner. C'est une génération qui s'appuyait sur des joueurs très connus, Gonçalo Uva, Pedro Leal, José Pinto, mais qui n'a jamais vraiment réussi à rivaliser avec les autres.
Bon, faut qu'on parle de cette génération 2023, bien évidemment, Pierrot. Il y a des destins improbables qu'on adore. C'est vrai qu'on a fait un podcast la semaine dernière où on s'est concentré sur la Namibie, des joueurs semi-professionnels pour la plupart, ou qui arrivent du niveau universitaire, qui sont amateurs. Il y a un peu ce genre de profil-là au Portugal. Je pense à un pilier qui est français, enfin qui a la double nationalité, Lionel Campergue, qui joue en Fédéral 2, qui est commercial dans le vin. Il joue à l'AS Pollon dans les Pyrénées-Atlantiques et il va pas disputer cette Coupe du Monde. Voilà, il y a des destins comme ça. Donc, parle-nous de cette qualification pour 2023, bien évidemment, et du profil de joueurs qu'on retrouve dans cette sélection portugaise.
Eh bien, la qualification pour 2023, c'est un concours de circonstances hors du commun. Il faut expliquer que c'était le Six Nations B qui définissait les qualifiés pour la zone Europe. Malheureusement pour les Portugais, ils ne faisaient pas partie des qualifiés. Ils ont terminé quatrième. Les deux premières places étaient directement qualificatives et la troisième invitait l'équipe à passer un barrage, une sorte de tournoi à la vie à la mort à Dubaï. Ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui ont fini devant eux, les Espagnols, en fait, ils ont fait un peu n'importe quoi, nos amis espagnols. Pour la deuxième fois consécutive, ils ont fait jouer des joueurs qui n'étaient pas espagnols, qui n'avaient pas la double nationalité, le passeport. Et donc, la Fédération World Rugby a dit « Attendez, mais ils ne sont pas du tout espagnols, les joueurs-là ?»« Ah ben non, pas du tout. » Donc, disqualification de l'équipe d'Espagne, ce qui a offert un petit strapontin à l'équipe du Portugal qui a dû aller jouer le tournoi de qualification à Dubaï. Bon, ben voilà, ils n'étaient pas favoris. Et ils se sont accrochés, ils ont gagné deux matchs et pour la dernière rencontre, ils ont accroché le match nul face aux USA grâce à une pénalité à la dernière seconde qui a été inscrite par Samuel Marquez, le joueur de Béziers. Et voilà comment les Portugais, sur un miracle absolu, sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Et ça a forcément eu des incidences sur les joueurs qui vont être sélectionnés puisque, évidemment, il y a des histoires comme celle de Sam Marquez qui est français de naissance, portugais d'origine et qui a décidé de représenter les couleurs des Lobos. Mais il y a aussi des histoires un peu étranges, un peu cabossées, totalement atypiques. C'est le cas de Mike Tadger, par exemple, qui est un joueur qui est un joueur de top 14 qu'on connaît bien, qui a évolué à Clermont, à Grenoble, à l'USAP, au Racing. Et en fait, Mike, il est d'origine portugaise par son papa et d'origine syrienne par sa maman. Il a mis un petit peu de temps à accepter la sélection, 2012 pour sa première sélection avec l'équipe du Portugal, et il fait ça pour son papa, voilà, parce que il avait envie de jouer au plus haut niveau, mais aussi de rendre fière sa famille. Autre histoire, autre parcours, peut-être un peu plus étonnant, celui de Vincent Pinto. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, il est champion du monde des moins de 20 avec la génération Entamac. Ouais. Et voilà. Et Vincent a fait le choix de représenter le Portugal. Peut-être parce qu'il avait pris conscience que c'était probablement un petit peu bouché au niveau français, au niveau tricolore. Être en concurrence avec Damien Penaud, c'est pas évident. Mais aussi parce que c'était l'expérience possible, c'était jouer une Coupe du Monde en France, même avec le maillot du Portugal. Donc il a décliné les sélections logiquement, puisqu'il était international français des moins de 20. Et en 2022, il a franchi le pas. C'est le cas aussi pour Joris Moura, qui a été sélectionné uniquement en 2023.
Je crois, Pierrot, que dans les 33, il y a 17 joueurs qui ont la nationalité, qui jouent en France et qui ont un peu cette binationalité, enfin qu'on est allé chercher sur le sol français. C'est quand même beaucoup. Et puis tu le disais, il y a énormément de joueurs qui ont ce profil un peu, qui ont une vie professionnelle à côté. Le capitaine Thomas Appleton, par exemple, qui est chirurgien-dentiste. Alors, on parlait des Namibiens, il y avait beaucoup de dentistes chez les Namibiens. Lui aussi, et dentiste, il y a un délire avec le rugbyman et je sais pas et la profession de dentiste.
Ouais, c'est rugbyman et médecin plus globalement les études supérieures parce que souvent c'est des sports universitaires. Donc il faut faire des longues études pour rester finalement rugbyman, c'est le cas dans des pays comme l'Argentine par exemple, je sais pas si tu te souviens, la génération 2007 en Argentine, les Roncero, les Comte Pomi, ils sont tous médecins ou avocats, donc bravo quoi, c'est incroyable. Ouais. Et pour revenir juste en deux mots sur les Français de cette équipe, ça donne aussi une identité au rugby portugais. C'est un rugby porté sur l'attaque, aéré, aérien, et on les a vus sur les deux premiers matchs, ils relancent de partout. Ils ont une petite pépite, Nuno Sousa Guedes, qui est connu notamment pour le rugby à 7 plus que pour le rugby à 15, et d'ailleurs ça se voit sur ses petits crochets intérieurs. Et puis historiquement, ils ont à la fois un mélange de français entre guillemets et de rugby à 7. L'un des plus grands joueurs, qui est Esteves, était une méga star du rugby à 7. C'est le cas aussi pour Pedro Leal, qui est une légende de l'équipe portugaise et qui aussi a brillé sur le circuit à 7. Donc il y a un mélange en fait entre l'identité 7, qui est très portée sur le 1 contre 1 et sur le volume, et française, avec le French flair qu'on a toujours un peu mis en avant.
Et il y a des joueurs de qualité. Hein. Tu parlais de Guedes, l'arrière, Raphaël Estorti, qui a été prêté à Béziers, qui a éclaboussé de son talent le match contre la Géorgie. Voilà.
Portela, le numéro 10, 22 ans seulement.
Portela, exactement.
Qui est en
sélection
depuis 4 ans.
De jeunes joueurs, en effet. Et il y a un homme qui incarne ça, Pierrot, bien évidemment. C'est un Français, c'est Patrice Lagisquet, qui a pris la sélection en 2019. peut-être un de ses derniers challenges dans le rugby. Lui dit que ce sera peut-être le dernier et qui n'a pas façonné cette génération-là, mais qui l'amène en Coupe du Monde et qui l'amène ce Portugal-là à être performant face au Pays de Galles, contre la Géorgie, alors qu'en début de compétition, les discours, c'était plutôt de se dire « bon, on vient pas pour en prendre 60, mais on sait qu'on sera pas favori ». Et là, ils rivalisent contre des nations qui sont, sur le papier, bien plus supérieures à eux. C'est assez fou ce qui se passe et c'est assez dingue ce qu'a fait la Gisquet.
Bah, la Gisquet, il s'appuie sur deux choses. La première, c'est la décomplexion. Il a réussi à faire croire à des joueurs qui évoluent pour la plupart en Pro D2 que c'était possible, qu'ils avaient la possibilité déjà de jouer au rugby. Parce qu'ils refusent rien, ils mettent beaucoup de volume, on l'a dit. Ils ont pris les Géorgiens à leur jeu en mêlée fermée. Là, je pense que certains illustres piliers géorgiens qu'on connaît bien ont dû se retourner dans leur vestiaire.
Ah, mais bah oui.
Voilà, c'était impressionnant. Et puis la deuxième chose que Patrice Lagisquet a fait, et qui a forcément créé du lien dans son équipe, c'est qu'il a reconduit l'équipe qui a arraché la qualification. Ça aurait été facile pour lui de faire un appel du pied et facile aussi de l'accepter pour des joueurs comme Morgan Parra. Il y a eu quelques rumeurs sur le fait que le demi de mêlée du Stade français aurait pu venir filer un coup de main à cette équipe portugaise. C'était pareil avec Sedate Gomesa, le pilier droit du Racing, qui aurait peut-être été intéressé par l'éventualité de représenter le Portugal. Mais déjà, c'était pas une évidence. Et ensuite, Patrice Lagisquet a refusé de les contacter en disant que ça aurait été une trahison pour le groupe. Et mine de rien, ce genre de choix, quand l'entraîneur décide de faire confiance au même groupe, ça crée une forme de solidarité et de reconnaissance